9h42 à Paris, 7h42 en temps universel. On passe au journal des sports avec vous, Antoine Grenier. Le football africain à l'honneur avec d'abord l'épilogue de la saison au Sénégal et le duel à distance entre le Djaraf de Dakar et l'US Gorée.
Deux équipes à égalité en tête du classement avant la dernière journée de Ligue 1. Au programme, un déplacement pour Gorée qui va affronter Guédiawa pendant que le Djaraf se rend sur le terrain de la SCHLM. En rêvant, pourquoi pas un troisième titre au bout d'une saison d'ores et déjà réussie, Babacar Fall.
Coupe de la Confédération, Coupe du Sénégal, championnat de Ligue 1. Saison pleine d'émotions pour le Djaraf, selon son entraîneur Malik Daf.
Saison extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Au début, c'était pas évident avec les campagnes africaines parce que le championnat sénégalais n'était pas démarré, mais on est rentré dans les phases de poule et nous avons même raté les quarts de finale. Donc, à un but près, sur ASEC a eu plus de buts que nous. On a été éliminé par un but. Mais après, je veux saluer cette performance qui est là parce que déjà, quand vous n'avez pas de championnat, le championnat n'a pas encore démarré, vous arrivez à rivaliser les meilleurs en Afrique, à jouer les premiers rôles, à rentrer dans les phases de poule, à tout tuer heureusement, à tout tuer ASEC d'Abidjan. Ça prouve qu'il y a du travail et de la qualité aussi.
Mais tout n'est pas encore gagné pour le championnat. Le Djaraf et l'US Gorée totalisent le même nombre de points, avantage goal average pour le Djaraf. Et la dernière journée s'annonce palpitante.
Focus sur le match contre HLM. Ce sera un match très difficile contre une équipe qui est difficile à manœuvrer, difficile à jouer. Mais je pense que nous jouons pour gagner le titre de champion. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on doit faire tout pour le possible pour gagner.
Le duel à distance avec Gorée jusqu'à la dernière minute donc. Le Djaraf court derrière en 13e titre. C'est le plus gros palmarès du Sénégal. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et cette dernière journée de Ligue 1 sénégalaise débutera à 17h temps universel. Les 8 rencontres d'ailleurs de cette journée se jouent en même temps. L'élite à laquelle prendra part pour la première fois la saison prochaine la SC Camberen, sacré champion de Ligue 2 devant le Stade d'Hombourg, lui aussi promu.
En football féminin, en route vers la CAN, la République démocratique du Congo fait un petit crochet par l'Algérie.
Les Léopardes achèvent leur préparation à Blida face aux Algériennes. Match à suivre à partir de 17h heure locale. Dernière rencontre amicale pour la RDC avant de prendre la direction du Maroc où les Congolaises débuteront leur Coupe d'Afrique face au Sénégal. Ça sera le 6 juillet.
En Guinée, Antoine, c'est une renaissance, celle du championnat national de basket.
Après plusieurs années de crise institutionnelle profonde, le championnat a repris ses droits. 5 ans d'attente se sont donc achevés pendant lesquels les participations du SLAC à la Basketball Africa League en 2022 et 2023 ont été l'arbre qui cachait la forêt. Alors ce retour sur les parquets de Conakry, c'est aussi le retour des sourires sur les visages des joueuses et joueurs guinéens. Tiernoya Diallo.
Dans une ambiance fêtée au Palais des Sports du stade du 28 septembre, Ouaraba de Mariam Goupou Traoré s'incline sur le score de 36 à 30 face à Dior Fof. Mais pour la jeune meneuse, l'essentiel est bien ailleurs. Régoûté au jour du championnat local après 5 ans d'arrêt.
Ça nous avait manqué parce que le championnat, c'est une compétition qui nous permet de montrer nos façons de jeu, tout ce que le coach nous a montré, tout ce qu'on sait faire dans le basketball. On a vraiment envie de jouer ce championnat guinéen.
Une envie qu'on retrouve également du côté des hommes. Mamadi Konaté du Nabaya Basketball était le président du collectif des basketteurs pendant la crise. Pour le pivot du club de Cancan, le retour à la normale va favoriser l'éclosion des jeunes talents et décupler leurs ambitions.
Permettre aux jeunes de s'épanouir, mais aussi de donner la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer et aller représenter l'équipe nationale, voire trouver des clubs à l'international. Et surtout, de manière générale, tous les clubs désirent aujourd'hui d'aller à la boule.
Absente des deux dernières éditions de la BL, faute de championnat structuré, la Guinée compte bien faire son retour pour le CRU 2026. Et cela passera par une bonne organisation au niveau local. La crise n'est plus qu'un lointain souvenir. Et les planètes semblent enfin s'aligner pour le plus grand bonheur des jeunes pratiquants. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
La Guinée, dont les équipes nationales masculines et féminines de basket prendront part au championnat d'Afrique cet été.
Et c'était le journal des sports. Merci Antoine Grenier. 46 degrés en Andalousie. La canicule s'installe en Europe. Le continent écrasé de chaleur dès le début de l'été. Un phénomène météo accentué par le réchauffement climatique. Et pour rester au frais, de nombreuses villes redécouvrent des solutions vieilles de parfois plusieurs siècles, bien avant l'invention de la climatisation. Des civilisations du monde entier avaient déjà imaginé des stratégies ingénieuses pour se protéger de la chaleur. Illustration ce matin dans 4 pays pour le tour du monde des correspondants. Et on commence au Pérou, où les Incas s'adaptaient déjà, Martin Chabal, il y a des siècles aux conditions extrêmes des Andes.
Quand on vit à plus de 3500 mètres d'altitude, comme à Cusco, on affronte des journées chaudes et des nuits très froides. Les Incas construisaient alors leurs maisons selon des techniques pointues. Ils taillaient de gros blocs de pierre, mais tellement bien taillés qu'ils s'emboîtaient à la perfection les uns sur les autres. Avec ça, ils avaient des murs très épais et bien denses, et les maisons résistaient alors aux changements de température extrêmes des Andes. Sur le toit, les Incas ont choisi l'option végétale, en roseau ou en itchou, plante endémique des hauts plateaux andins. Ils emmagasinaient la chaleur le jour et la restituaient la nuit. Et puis, comme on peut le voir au Machu Picchu, les maisons avaient aussi une forme rectangulaire avec une seule porte d'entrée et presque jamais de fenêtre, une construction aux propriétés antisismiques, car les tremblements de terre sont fréquents dans le pays, mais qui permettait aussi de rester au frais la journée et au chaud la nuit.
Au Japon, aussi, l'architecture a son importance pour se protéger des fortes chaleurs, ce qui permet d'éviter de trop utiliser la clim. Et ça tombe bien, Frédéric Charles, dans un pays où les prix de l'électricité sont les plus élevés au monde.
Les maisons traditionnelles japonaises sont conçues pour maintenir la fraîcheur à l'intérieur. Ces constructions en bois légère ont des toits débordants qui protègent les murs de l'ensoleillement direct. Des cloisons coulissantes en papier filtrent la lumière, assurent une bonne circulation de l'air. Des stores en bambou bloquent les rayons du soleil, tout en laissant passer une légère brise. Des petits jardins intérieurs créent des microclimats plus frais. L'humidité rend l'été japonais insupportable. Alors les piliers des bâtisses en bois, exposés sur les côtés d'un mur en plâtre, permettent de faire baisser l'humidité à l'intérieur. Le papier des portes coulissantes absorbe aussi l'humidité. Enfin, un parc à thème de Tokyo propose des maisons hantées avec des revenants en kimono aux yeux rougis. Elles font frissonner les visiteurs et leur font oublier la chaleur.
On est passé donc par les continents américains, asiatiques, on va maintenant en Afrique, on prend l'exemple du Maroc. Là-bas, malgré les températures qui peuvent devenir étouffantes, on est plutôt épargné dans les médinas, les vieilles villes. Mathias Reynal, elles sont conçues depuis des siècles comme des refuges face à la chaleur.
Oui, il suffit de quitter les quartiers modernes, de s'engouffrer dans les ruelles étroites et ombragées de la médina pour prendre instantanément un coup de frais l'été. La médina, avec ses maisons collées les unes aux autres, bénéficie comme d'un microclimat. Les murs sont blanchis à la chaux pour renvoyer les rayons du soleil. Ici, les ruelles serpentent dans la ville. Rien n'a l'air droit et pour une bonne raison. Cela crée une ventilation naturelle et permet d'évacuer l'air chaud lors des épisodes de canicule. D'ailleurs, le riad marocain est particulièrement bien adapté à la chaleur. Il profite d'une isolation efficace grâce à ses murs épais. Chaque région dispose de ses matériaux de construction spécifiques, mais on retrouve toujours un même principe architectural, un patio central qui assure une bonne circulation de l'air tout en protégeant le cœur de la maison des rayons du soleil les plus ardents. Une fontaine trône au rez-de-chaussée entourée de plantes pour rafraîchir encore l'atmosphère de quelques degrés.
Mathias Reynal. Et on termine ce tour du monde des correspondants en Europe, dans l'archipel grec des Cyclades, connues pour ses îles aux petites habitations blanchies à la chaux. Si c'est joli sur les cartes postales, c'est aussi bien pratique, Joël Brunner, pour rester à peu près au frais.
Dans les Cyclades, si les murs des maisons en pierre permettent de réfléchir efficacement les rayons du soleil, c'est d'abord en effet parce qu'ils sont blanchis avec des enduits à la chaux. La chaux, c'est du calcaire qui est d'abord brûlé, calciné dans un four, puis mélangé avec de l'eau. Une fois appliqué sur la paroi des maisons, cela crée une sorte d'effet tampon qui permet de ralentir le transfert de la chaleur extérieure vers l'intérieur. En plus de ça, les murs eux-mêmes sont généralement assez épais, ils font de 60 à 80 cm, ce qui favorise aussi l'isolation thermique. Les fenêtres, elles, sont toutes petites pour limiter les ouvertures et conserver, là encore, de la fraîcheur. Et ces fenêtres, on en trouve en général des deux côtés des parois pour utiliser le vent d'été, le Meltem, comme source de courant d'air. Santorin, elle, a aussi la particularité d'abriter des habitations troglodytes creusées dans la roche volcanique de l'île, qui fonctionne en l'occurrence comme un isolant naturel.
Joël Bronner à Athènes pour refermer ce tour du monde des correspondants RFI. Il est 9h51 à Paris.
RFI, toute l'actualité.
Marion Kazanov.
Dimanche 29 juin 2025, l'Iran à la une. Téhéran affirme ce matin que la frappe israélienne sur la prison d'Evin lundi a fait 71 morts. Des opposants et des détenus étrangers ou binationaux, dont des Français, étaient détenus dans ce centre pénitentiaire au moment des frappes israéliennes. Après le président américain, le médiateur qatarien évoque la possibilité d'une trêve à Gaza. Il parle d'une fenêtre d'opportunité créée par le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, alors que l'armée israélienne a appelé ce matin à évacuer des secteurs du nord de l'enclave. Malgré son interdiction par la police, près de 200 000 personnes ont participé à la marche des fiertés hier à Budapest. Mobilisation record en Hongrie en réaction à un recul inédit des droits des LGBT dans l'Union européenne. Manifestation sous tension au Togo, troisième et dernière journée de mobilisation contre le pouvoir hier. Elle a été violemment réprimée par la police. Les corps de trois jeunes ont été repêchés dans la lagune de Bay. Et puis en football, suite des huitièmes de finale du Mondial des clubs, Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale hier en battant le Benfica 4-1. Le Paris Saint-Germain joue tout à l'heure face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Agriculture durable, sécurité alimentaire et respect de l'environnement. Depuis près de 7 ans, l'association Frères des Hommes finance un programme de soutien aux paysans de la province du sud du Rwanda avec des associations locales. L'objectif est d'accompagner les familles paysannes pour renforcer leur capacité à produire et à gérer leur production dans le respect de l'environnement. L'Afrique en marche, chronique de Frédéric Gara.
Permettre l'autosuffisance alimentaire, c'est bien, mais si en plus on peut se nourrir sainement, c'est mieux. C'est en quelque sorte la philosophie du projet Recasé, porté par l'association Frères des Hommes. Depuis 7 ans, ce renforcement des capacités sociales et économiques, Recasé donc, accompagne près de 7000 paysans au Rwanda pour s'initier aux bonnes pratiques agroécologiques en matière d'élevage ou d'agriculture. Flavie Lauvernier, responsable de la gestion des projets Frères des Hommes.
Il y a déjà toute une partie de formation, formation en gouvernance, en gestion et la bonne gestion des fonds qui leur permettent de mettre en œuvre les actions paysannes collectives. Et puis ensuite, plein d'actions concrètes qu'ils mettent en œuvre, dont des pépinières et des champs collectifs pour permettre de produire des plants maraîchers, des plants fruitiers, forestiers. Et aussi, il y a toute une partie de formation sur le petit élevage et notamment la démultiplication de porcs.
Ce qui permet aux familles et aux enfants de ces familles d'avoir un apport en protéines, également avec l'élevage de poules et de poulets.
Exactement. Et puis aussi des formations en nutrition, puisqu'on sait que la malnutrition est toujours une problématique au Rwanda. Donc nous avons une nutritionniste sur le projet, avec des paysans qui sont formés pour eux-mêmes répliquer ces formations auprès des autres membres des collectifs, peuvent disséminer les bonnes pratiques alimentaires, notamment basées sur les différentes productions agricoles, les légumes et les fruits qui sont produits grâce aux activités collectives. Comment bien se nourrir pour avoir les apports nécessaires, en particulier pour les enfants.
Léonie Ouamaria est l'une des formatrices dans la province du Sud à Kigoma, Ruganza ou encore Ruzenge.
Quand ils utilisent les engrais organiques et les pesticides naturels, l'investissement c'est moins. Par exemple, sur la culture des haricots, sur un arbre, tu peux investir 10 000 avec la fumée organique. Mais quand on utilise les engrais chimiques et les pesticides chimiques, tu peux investir 20 000. Aussi, c'est la santé. Nous savons que quand on utilise les engrais chimiques, il y a les maladies, les conséquences négatives sur la santé humaine. Donc, avec les intrants chimiques, il y a quelquefois des conséquences négatives.
À cet accompagnement éco-responsable des paysans rwandais s'ajoute une sensibilisation dans les écoles sur les bonnes pratiques agroécologiques, notamment avec l'instauration de jardins potagers dans les cours d'une trentaine d'établissements scolaires où l'on mange à la cantine ce que l'on a fait pousser dans les potagers. Léonie Ouamaria.
On met en place les jardins scolaires que les enfants peuvent s'occuper. On réforme aussi sur la gestion des déchets. Et nous voyons que les enfants comprennent ça. Et aussi sur la plantation des arbres agroforestiers. Et nous voyons que les élèves sont conscients de ces enjeux environnementaux. Les acquis de cette formation les enfants mettent en pratique dans leur ménage.
Bien entendu, tout cela a un coût. C'est pourquoi Frères des Hommes lance régulièrement des campagnes de financement participatif pour récolter des dons. Et ça, c'est Julie Caillé qui s'en occupe.
Les personnes qui vont contribuer à la page de collecte, ce sera plutôt pour financer kits de semences potagères qui sont redistribués aux populations locales et aussi l'achat de matériel pour la construction de champs de démonstration aux pratiques agroécologiques dans les écoles et également du matériel pour les sessions de formation pour les paysans aux pratiques durables.
Depuis 7 ans d'activité au Rwanda, Frères des Hommes a permis à plus de 1800 familles de bénéficier de dons de petit bétail, à plus de 900 ménages de lutter contre la malnutrition infantile et à près de 700 élèves rwandais d'affronter l'avenir avec les notions nécessaires aux enjeux environnementaux du moment.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. Et c'est ainsi que s'achève RFI Matin, 3 heures d'information. On se quitte comme tous les jours en musique avec du rap français. On écoute Turi et son titre Lundi.
Je pourrais fuck avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal à la taille du couloir. Je pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, pas de problème, je fais le boulot. J'ai besoin d'une raquille qui vit la nuit, qui m'appelle papy. T'es brûlant comme Notre-Dame, ça sent Amsterdam dans ta cage de scorieux.
La place minérale, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 comme les favoris. Elle m'en fait voir des rouges, des bleus, des fêtes et des papures. Mais je suis sûr qu'elle ne voit pas que moi, moi, moi. Ses voisins se plaignent de ta mâche nocturne. Alors ça nous arrive de le faire dans sa voiture. Billie Jean comme Mike. Elle veut qu'on se capte avant trois comme Mike. Elle veut me mettre KO comme Mike. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir comme Mike. Elle dit que je fais du son de bar. Alors elle pas marché. Elle a posé son doigt près de ma casquette. Ok, ok.
J'pourrais faire avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal à la taille du coup. J'pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, pas de problème, j'fais le boulot. J'ai besoin d'une rapide qui est la nuit. Qui m'appelle Paris. Des boulots comme Notre-Dame. Ça sent Amsterdam dans la cage de Scorieux.
Elle aime pilotable. Sur les rappeurs que tu trouves cool, c'est le top.
Turi et son titre Lundi, un choix intéressant pour refermer ces 3 heures d'info dans RFI Matin. Et vous le retrouvez ce titre dans la playlist musicale de RFI. Merci à Hugo Vallière qui était à la réalisation ce matin. Restez avec nous sur RFI dans 30 secondes, le retour de l'actualité internationale.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.